Alors mon propos va être, je l'espère, pratique. Et pratique, pas dans les hautes sphères, pas trop haut, j'espère. Je voudrais commencer par une anecdote qu'un prêtre américain m'a racontée à propos de Saint Jean-Paul II. Vous savez que Saint Jean-Paul II était un grand saint mystique. Il avait installé son bureau dans la chapelle du Vatican. Beaucoup de ses documents sont imprégnés, non seulement de son intelligence, mais de sa méditation dans la chapelle, au pied de Jésus, dans le tabernacle. Et alors, cette anecdote m'a été racontée à propos de sa venue aux États-Unis, au GMJ de Denver. Le responsable du protocole de la Papa Mobile a vu que sur le trajet, il y avait une petite chapelle avec le Seigneur Jésus. Et il s'est dit, si le Saint-Père voit la chapelle, il va vouloir s'arrêter et on est foutu sur le timing. Alors, il a eu l'idée d'essayer de cacher cette petite chapelle. Donc, il a fait venir des petits arbustes, des espèces de tentes, etc. pour cacher la chapelle, pour que le pape ne la voie pas. La Papa Mobile arrive et elle passe devant et le Saint-Père dit « Stop !» Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Bah, Saint-Père, il y a une chapelle avec le Seigneur et on avait peur que vous vouliez vous arrêter et qu'après notre timing soit foutu. Ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père, a-t-il dit. Il avait perçu la présence de Jésus, l'Eucharistie, quasi physiquement, comme le Padre Pio, comme d'autres mystiques. Et donc l'Église nous a donné, le Seigneur nous a donné ce grand saint pour nous montrer le chemin et pour mettre l'Eucharistie au cœur de nos vies. Alors, ma petite conférence a duré à peu près 40 minutes, 45 minutes maxi. À peu près 7 points, 6 ou 7 points en fonction du temps. Assez concret, je l'espère. Alors, le premier point, pour passer une heure fructueuse avec Jésus au Saint-Sacrement, parce qu'effectivement, souvent on me dit, mon père, je veux bien, mais qu'est-ce que je fais pendant une heure? C'est long, une heure. Qu'est-ce que je fais? On a peut-être un peu peur de cette heure de prière, d'adoration. Alors je crois que je vais vous décomplexer, vous déstresser à l'aide des saints. Et je vous conseille pour votre méditation et pour votre vie spirituelle ce livre, les citations des saints, Jésus-Christ dedans. C'est l'Eucharistie à l'école des saints du Père Nicolas Butet. Voilà. Vous pourrez prendre des références à la fin, hein, je l'ai avec moi. Mais c'est un petit chef-d'œuvre, une petite somme, et ça c'est vraiment extra pour méditer dans la chapelle. Alors, première attitude spirituelle pour que notre adoration soit fructueuse. Première attitude, se décentrer de soi quand on arrive et se tourner vers Jésus. Alors concrètement, eh bien, ça passe par le corps aussi. Hein, donc, on quitte le monde bruyant pour aller vers Jésus qui est calme, silencieux. Et donc, une posture physique peut nous aider, au moins au début, hein, vraiment un signe de respect, d'adoration. Si on peut, on se met à genoux, si on n'est pas malade, si on n'a pas de problème de jambes. Pas forcément tout clair, hein, bien sûr, mais un bon temps à genoux pour adorer, pour se mettre en présence, vous voyez, ça nous aide, ça aide notre âme. Parce que je vous rappelle qu'en saine anthropologie, ce n'est pas deux choses distinctes. Le corps et l'âme sont tellement unis que c'est une chose. Hein, c'est deux réalités, mais qui sont tellement unies que c'est un. Donc on ne peut pas séparer. Et donc le corps nous aide à nous recueillir et à nous décentrer, à nous tourner vers Jésus. Alors c'est le corps, mais c'est aussi des actes intérieurs, des petites paroles adressées à Jésus. Jésus, tu es là, Jésus, je t'adore, Jésus, je t'aime, ce que vous voulez, hein. Pas de règles, mais voyez, pour reconnaître la présence du Seigneur qui est là. Parce que, frères et sœurs, nous avons tous un gros défaut suite au péché originel, c'est d'être centré non pas sur les autres et sur le tout autre, mais sur nous-mêmes. J'ai vécu un peu aux États-Unis avec les moines du Bronx, et l'un des frères m'avait dit un jour, tu sais Jérôme, Dieu est Trinité. Et ça, je dis, bah oui, ça je sais quand même. Et il a créé l'homme à son image. Oui, ça aussi, je sais. Il bien donc il y a une trinité dans l'homme. Sais-tu ce que c'est ? Et je dis, ben non, là, je ne sais pas. Je vous le fais en anglais, hein, il l'a fait en anglais. La trinité dans l'homme, c'est me, myself, and I. Moi, moi, moi. Voilà, c'est les conséquences du péché. On est tous enfermés dans notre petit moi et on a du mal à se décentrer. Donc, vous voyez, c'est important quand on arrive de se faire ces petits actes, de se décentrer, de se tourner vers Jésus. Vous voyez, intérieurement, Jésus, tu es là. Jésus, je vois que tu es là, je veux t'aimer, je veux t'adorer. Vous voyez, on sort. On essaie de sortir de ce petit moi. Et si après, pendant l'heure, on est parti dans nos rêveries ou dans nos distractions et qu'on s'en rend compte, et bien peut-être on peut se remettre à genoux un petit peu, quelques minutes, et puis de nouveau faire des actes. Vous voyez, Jésus, tu es là, pardon, je suis parti, je reviens, tu es là, je veux t'aider, t'aimer, t'adorer. Vous voyez, il n'y a pas de formule, hein, mais voilà, des attitudes pour sortir de soi. Essayez, on n'y arrivera pas trop, hein, je vous rassure, parce qu'on reste pécheur. Mais alors, de poser ces actes, ça nous aide à faire la rencontre, hein, parce que cette heure, normalement, c'est une rencontre avec le tout autre, avec Jésus, qui est vraiment là. Et c'est un moyen puissant qu'il a laissé, l'Eucharistie, parce que ça objective quelqu'un en dehors de moi. Vous voyez ? Le but ultime, c'est le cœur à cœur. Et on peut arriver aussi au cœur à cœur sans l'adoration. L'oraison du Carmel a pour but le cœur à cœur. Mais le Seigneur nous a laissé un moyen puissant, une aide précieuse pour notre faiblesse, c'est sa présence réelle, autre que moi. Vous voyez, il est vraiment là. Et donc ça nous aide, par le face-à-face, à arriver au cœur à cœur avec Jésus. Et donc je vais m'aider des saints. Hein, parce que les saints, ils sont tellement forts qu'ils nous décomplexent et nous aident pour bien vivre ces adorations. Et notamment, je vais reprendre souvent les citations de Saint-Pierre-Julien Aymard, saint qui n'est pas très connu, qui est du 19e siècle, qui est le saint patron de notre communauté, qui a fondé une congrégation de prêtres religieux du Saint-Sacrement. Il est surnommé l'apôtre de l'Eucharistie. Et alors il dit ceci. Il faut commencer tous nos face-à-face avec Jésus hostie par un acte d'amour et de foi en sa présence. C'est parce qu'on commence par nous-mêmes que nous nous arrêtons en chemin. Vous voyez ? Acte de foi et d'amour en sa présence. Et souvent, on s'ennuie parce qu'on reste enfermé avec son petit moi. Et notre petit moi, il est bien, mais il y a mieux. Il y a Jésus. Vous voyez ? Donc, ces actes répétés, peut-être, au début, pour essayer de sortir de soi. Voilà donc pour la première attitude, se décentrer, essayer de se décentrer par les actes physiques ou intérieurs, se tourner vers Jésus. Deuxième attitude, la simplicité. Qu'est-ce que nous sommes compliqués, frères et sœurs ? Surtout en amour, parce que nous sommes blessés. Blessés par le péché, blessés par notre histoire qui est liée au péché. Et nous avons du mal à aimer dans la simplicité. C'est valable pour les femmes et les maris entre eux, les parents et les enfants, et a fortiori pour nous avec Dieu. On est compliqué. On ne sait pas être tout simplement en relation avec Jésus. Donc lui parler avec les mots de notre cœur, de manière toute simple. Ne pas se compliquer, accueillir ce qu'on est de manière toute simple et se donner à Jésus, lui parler comme on parle à quelqu'un, un ami qui est là. On ne va pas inventer des grandes formules, on lui parle. On se tait aussi, mais on peut lui parler. Tout simplement, Jésus, je t'aime. Enfin, tout simplement, ce qui passe par le cœur, c'est important. Le père François Liberman, prêtre de la congrégation du Saint-Esprit. L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister dans un repos simple, paisible et plein de confiance devant notre Seigneur. Voilà tout. Tenez-vous devant Jésus comme un pauvre misérable enfant devant son Père, pas davantage. Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir calme d'être à lui, tel que vous êtes. Ne cherchez pas davantage. Simplicité, frères et sœurs. Regarde l'âme tout simple. Ne nous compliquons pas la tâche. Allons-y comme nous sommes. Alors, petite parenthèse à l'intérieur de cette simplicité, est-ce qu'on peut s'aider d'un livre? Réponse, oui. Et là, je prends pour appui Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, docteur de la vie intérieure, avec Saint Jean de la Croix, avec tous les grands saints de Carmel. Donc c'est la star de la prière, hein, Sainte Thérèse d'Avila. Et elle raconte dans sa biographie que pendant 14 ans, une fois rentrée déjà au monastère, elle avait commencé à prier, à mon avis, bien avant, mais à partir du monastère, pendant 14 ans, elle n'a pas pu faire oraison, dit-elle, sans l'aide d'un livre. Bon, après, elle était tellement montée vers le Seigneur en intimité qu'elle n'avait plus besoin de livre. Donc elle a arrêté le livre au bout de 14 ans. Mais bon, docteur de l'Église, docteur de la prière, hein, c'est la star. Et donc, on peut utiliser un livre. Mais attention au piège. Parce que le livre peut être une aide, mais peut devenir un obstacle. Exemple, j'arrive à l'adoration, je fais une réflexion, j'adore Jésus une minute ou deux, je me relève, je m'assieds, j'ouvre mon livre, et pendant 58 minutes, je lis. Et après, hop, c'est là, je referme mon livre, je dis au revoir à Jésus, et je m'en vais. Là, vous comprenez bien, on a loupé le face-à-face et le cœur-à-cœur. Il y a eu l'obstacle du livre. Donc il ne faut pas que ce soit une fuite, un piège. Imaginez que vous invitiez vos meilleurs amis à dîner, vous les accueillez, bonjour, vous les installez dans le canapé, et puis après vous sortez votre roman, voilà, pendant 2 heures, vous bouquinez, vous le laissez servir, puis à la fin, ah, c'était une bonne soirée, hein, allez, au revoir. Vous voyez, ça peut faire écran. Donc une aide, une petite méditation, d'un livre de méditation, l'Évangile, la Bible, la parole de Dieu, hein, mais que ça ne prenne pas toute la place, peut-être des petites méditations de 6, 7, 8 minutes, et puis 2 ou 3 dans l'heure, quoi. Mais vous voyez, il ne faut pas que ça prenne toute la place, hein, mais on peut s'aider, ça nous aide à nous recueillir, et puis ça nourrit notre méditation. Alors prenons le livre, dès qu'on voit qu'on est parti, dans nos pensées, la cuisine à faire tout à l'heure, les enfants aller chercher à l'école, la réunion demain pour le boulot, je ne sais pas. Il y a tout un tas de choses qui nous passent par la tête, hein, quand on va prier, ça c'est sûr. Eh bien, on prend le livre, on prend l'Évangile, une péricope, et puis on la médite, vous voyez. Ça nous aide, mais pas 58 minutes de lecture. Ok. Alors, troisième attitude. Ne pas avoir peur de sa pauvreté. Ça revient, ça rejoint un peu les deux premières. Hein. Parce que ben on n'aime pas notre pauvreté. Moi, j'aime pas ma pauvreté, j'aime pas ma misère. En fait, on ne sait pas prier. Hein. On ne sait pas prier. Alors, voilà, on le sait, et c'est pas grave. On est des pauvres. Et on a besoin de Dieu, même pour prier. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, et dans un gémissement, il nous aide à prier, il nous fait prier. Et donc on n'a pas peur de sa pauvreté. Et là encore, Saint-Pierre Julien est marre. Rappelez-vous bien que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. Jésus préfère notre pauvreté, frères et sœurs, mais nous, on ne la préfère pas. Hein, on fuit. Oh là là, quelle misère. Eh oui. Mais Jésus, il veut ça. Il aime ça. Alors, il ne faut pas lui prendre. Il faut lui donner sa pauvreté. Pierre-Julien Marc continue. C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, de l'impatience ou de la lâcheté, de ne pas vouloir aller à notre Seigneur avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce que notre Seigneur préfère à tous, c'est ce qu'il aime, ce qu'il bénit. Ils sont bien les saints, ils nous aident, hein. On peut y aller avec notre pauvreté, notre misère. On n'aime pas la voix, frères et sœurs, mais ça fait partie du truc. Hein, vous savez, les grands saints disaient toujours, le mystique, connaissance de Dieu avec la connaissance de soi-même. Les deux, toujours ensemble. Et plus on connaît Dieu, sa beauté, sa grandeur, sa splendeur, sa sainteté, plus il faut en parallèle connaître notre misère. Sinon, danger, présomption, orgueil. Toujours les deux. Hein, et pas que la misère, sinon désespoir. Hein, c'est toujours les deux. Connaissance de Dieu, connaissance de soi. C'est ce qui se passe à l'adoration. Le Seigneur fera les deux. Il va nous mettre la lumière sur nous-mêmes, il va se révéler aussi, donner des lumières de foi, etc. L'amour, l'espérance, les compréhensions intérieures. Une autre spirituelle, Catherine de Bar, en religion, mère Mechtilde du Saint-Sacrement, bénédictine qui a fondé une congrégation de sœurs qui adorait toute la journée, toute la nuit. Soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans vous mettre en peine de ne pouvoir rien faire. Et là, frères et sœurs, je pense qu'elle a quelque chose à nous dire à nous modernes, ou plutôt post-modernes, qui sommes façonnés, formatés par le faire. Je vaux ce que je fais. Et donc, comme on ne sait pas bien prier, on n'est pas très bon, on ne sait pas bien faire, ben on est perdu dans la prière. Et Jésus, il est content qu'on soit un peu déstabilisé et qu'on soit incapable de faire. Parce qu'on a l'impression que si on produit, si on fait, si on fabrique, là on est bon. Et si on ne fait rien, et ben on n'est pas bon. Et ça, c'est le monde qui nous dit ça. Et ce n'est pas vrai. N'ayez point de répugnance d'être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu'il ne veut rien de vous que le silence et l'anéantissement. Vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et abandonnerez sans réserve à sa toute-puissance. C'est dur, hein, frères et sœurs, de lâcher prise et de se remettre à notre place de créature. Si nous sommes, c'est parce que Dieu le veut et qu'il est en train de nous créer. Lui est tout-puissant. Et nous, on croit assez vite, en fait, qu'on est assez balèze, qu'on peut faire plein de choses. Mais non. Alors c'est un peu crucifiant, je vous l'accorde, mais c'est un mal pour un bien. N'ayons pas peur de cette pauvreté. Et puis donnons-lui. Jésus, tu vois, je ne sais pas prier, je suis distrait, j'y arrive pas. Mais je reste là, avec toi. Je te regarde et je te donne ce cœur pauvre. D'accord ? Et elle continue, cette Catherine de Bar, « Soyez fidèles en ce point, ne vous affligez pas de vos distractions. » Vous voyez, même les saints ont des distractions. « Laissez-les passer et demeurez humblement au pied de Jésus. » Alors là, vous allez dire que c'est peut-être un peu noir tout ce que je dis. Il y a aussi l'action de grâce hein, dans le cœur qu'on peut dire, hein, tous les merci qu'on peut dire à Jésus. Vous savez, je crois que la clé du bonheur, c'est la gratitude. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et remercier Jésus pour tout ce qu'on a plutôt que de râler pour tout ce qu'on n'a pas. Ça rend heureux la gratitude de dire merci à Jésus de m'avoir créé, merci de m'avoir sauvé, merci, merci, merci. Ben oui, je ne suis pas parfait, ben oui, j'ai ça qui ne va pas, ben c'est pas grave, merci. Ben vous pouvez vous garantir que la vie elle change, hein. On devient heureux. Parce qu'on est bien comme on est. Alors, Jésus veut nous changer parce qu'on est pécheurs, certes. Mais on est bien, hein. On est des merveilles, vous êtes des merveilles. Voilà, donc ça va un peu contre l'activisme ou le monde moderne qui est un peu pris dans le tourbillon du fer. Donc c'est un peu crucifiant, mais c'est bon. Hein, n'ayez pas peur de cette pauvreté. Si on met en place petit à petit ces attitudes, hein, on ne va pas trop y arriver, je vous rassure, mais on essaye. On essaye. Et bien, il va y avoir des petits miracles. Parce que Jésus est là, devant nous. Il vit sa vie. Il travaille. Il agit dans notre cœur. Même si on ne ressent rien. Alors, attention au piège du ressenti. Parce qu'au début, Jésus, pour nous attirer, nous donne des petites consolations spirituelles, des petits sucres. Nous, on suit. Mais, à un moment, il veut voir si on l'aime, lui, et non non pas le petit sucre. Alors, il enlève le petit sucre. Et nous, on est un peu perdus au début. Mais où mon petit sucre? Et en fait, il nous apprend à l'aimer lui. Est-ce qu'on veut les dons de Dieu ou Dieu lui-même? Alors, la plupart de vos adorations seront arides, frères et sœurs. La plupart de mes adorations sont arides. Je m'ennuie un petit peu. Je suis un pauvre qui ne sait pas bien prier. Mais on reste. On reste. Parce qu'il y aura une tentation très subtile qui va dire « Mais enfin, tu as vu comme tu es, tu penses à 12 milliards de trucs, tu n'es même pas avec Jésus, je ne sais pas prier, il ne faut pas que tu restes là, il faut que tu dégages. Pars. Pars. Ça, c'est le démon. » Et en fait, Saint-Pierre-Julien-Aymar appelle cette adoration celle du combat. Où on reste, on s'accroche. On a envie de partir, mais ça m'arrive. Hein. Je viens d'arriver, 5 minutes, et j'ai envie de partir. J'ai 12 000 trucs qui arrivent en tête que je dois faire. Et je pars. Je veux partir. Eh bien non, on s'accroche. Comme Ulysse, vous savez, on s'attache. Omar, enfin, on ne va pas s'attacher, mais vous voyez l'idée, quoi. On reste. On n'écoute pas du tout tout ce qui nous ferait quitter l'heure sainte qu'on a donnée à Jésus chaque semaine. Parce que ça, le démon, il sait que c'est là que ça se joue. La vie intérieure. C'est la clé, notre union intime avec Jésus. Et c'est ça qui change nos vies petit à petit. Et donc il va tout faire pour nous faire quitter et arrêter. Et ne pas se réinscrire d'une année sur l'autre et dire mais non, ça ne sert à rien, t'as fait suffisamment, etc. Vous voyez ? On s'accroche, on n'écoute pas. On ferme ses oreilles comme Ulysse. Ah, c'est ça, il a mis des trucs dans ses oreilles. Hein. On peut écouter le chant des sirènes. Et on reste. Mais le Seigneur, il voit bien qu'on lutte, hein, qu'on dit « Seigneur, j'ai vraiment envie de partir, mais je reste pour toi, pas pour moi, pas pour mon petit gousi-gousi dans mon cœur. » Et il nous bénit. Hein. Et souvent, il attend les dernières minutes, le Seigneur, pour nous combler de sa lumière, de ses grâces, pour nous donner ce dont on a besoin. Hein. Il met à l'épreuve, mais il nous comble. Donc on ne s'en va pas. Et donc, il va y avoir des petites merveilles dans notre cœur, des lumières de la foi. La foi va grandir, on va comprendre des choses, ça ne va pas tomber du ciel, oh, j'ai compris un truc, mais imperceptiblement, le Seigneur va donner des lumières, il rayonne. Et si on médite l'Écriture, on va comprendre des choses, des livres de spiritualité, on va comprendre des choses, et ça va se greffer à l'intérieur de notre cœur en profondeur. On va pouvoir donner des pardons, parce que comme il fait la lumière dans notre vie, il va nous montrer des choses où on peut progresser, des choses qui ne sont pas encore réglées, des pardons à donner à des personnes qui nous ont blessés, des pardons à recevoir, des pardons à se donner à soi-même. Il va y avoir des guérisons, petit à petit, hein, ça n'arrive pas d'un coup, des guérisons, petit à petit, parce que la principale blessure de notre âme, c'est une blessure d'amour. Nous sommes faits pour l'amour infini et nous expérimentons des amours bancales. On est blessé. Et donc il va guérir par son amour, notre âme, petit à petit. Et donc la foi va grandir, l'espérance va grandir, l'amour va grandir, petit à petit. Et la vie devient belle. Il va aussi mettre la lumière sur nos ténèbres. Et ça fait mal, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est bon, c'est bon. Vous savez ce que disait Michel-Ange quand on lui disait « Mais comment vous faites pour faire une si belle statue ?» À partir d'un bloc de marbre. Et bien il dit « J'enlève ce qui est autour de la statue qui est déjà dans le bloc de marbre. J'enlève juste ce qu'il y a en trop. » Avec le burin, le marteau, et bien Jésus fait un peu ça. On est une merveille et il enlève. Donc il fera la lumière sur nos ténèbres, sur notre péché, etc. Mais il faut faire face. C'est pour nous faire grandir, pour nous en faire sortir. D'accord ? Et là, il y a un petit témoignage d'une jeune fille qui a été récupérée par le père Butté. Vous savez qu'il a passé du temps en ermitage en Suisse, 6 ans, avec, je crois, simplement la Bible, l'Eucharistie et la somme de théologie, je crois, pendant 6 ans. Donc il passait des nuits entières, adoré à fond, et c'est devenu un saint homme. Et il y a des jeunes qui venaient le frapper de temps en temps à son ermitage, parce qu'il était à flanc de falaise. En fait, c'était des jeunes qui étaient complètement paumés, et certains voulaient monter pour se jeter en bas. Et donc, il y a une jeune fille qui dit, qui témoigne. Elle est allée frapper au monastère. Il était en train de prier. Il l'a invité dans sa petite oratoire à prier. Il lui dit, ouais, tu vois, là, c'est Jésus qui t'aime, etc. Il l'a aidé. Et elle a décidé de revenir 9 nuits entières. Mystère, elle a décidé ça. Une jeune, hein. Et elle dit, à la fin de l'année, j'avais envie de crier à mes camarades la détresse qui me rongeait, ce dégoût de la vie qui me poussait à faire n'importe quoi. Et donc elle était montée pour se laisser tomber. Elle cria alors vers le Seigneur et décida d'implorer. Le Seigneur devra m'écouter cette fois. Je vais aller devant lui et je vais le supplier de m'aider. Ce fut donc 9 nuits entières d'adoration que je fis. Pendant 9 nuits, je présentais mes blessures au Saint-Sacrement et Jésus les pansait. Pendant 9 nuits, je laissais sortir toutes les meurtrissures de mon âme et la Vierge Marie me berçait dans ses bras pour m'apaiser. De ces 9 nuits, j'en ressortis transformée. Et elle dit qu'elle était tombée si bas, qu'elle est tombée sur Jésus, qui a pris la dernière place. Vous savez, Charles de Foucault dit qu'on ne peut pas prendre la dernière place sur Jésus, il l'a pris lui. Donc, on peut tomber le plus bas possible, mais en fait, en bas, il y a toujours Jésus, qui est plus bas que tout. Et elle a dit qu'elle était remontée, qu'elle avait fait remonter comme un trampoline vers la lumière, rencontrer Jésus au fond de sa misère. Donc le Seigneur peut agir. Là, c'est un peu exceptionnel et miraculeux, mais il fait ça avec chacun de nous, de manière plus paisible, plus lente, normale. Et il le fait, il travaille.